Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
On se souviendra en écoutant les histoires d'Alix et de Christina que les spécialistes sont formels. Les TCA, troubles du comportement alimentaire, ont des causes multiples. Non seulement ce genre de pathologie n'a rien de nouveau, hélas, on en trouve des descriptions dans des textes du Moyen-Âge, mais les filles et les garçons n'ont pas attendu TikTok pour comparer leur poids, ni les sites pro-ANA, on vous expliquera, pour entrer dans une sorte de compétition macabre à celle ou celui qui aura perdu le plus ou sera le plus maigre. Ceci étant posé, il y a de quoi flipper sérieusement quand on regarde les chiffres. Les professionnels du secteur se disent submergés par une vague TCA, anorexie mentale, boulimie nerveuse ou hyperphagie. Plus 30%, plus 40%, voire plus 50% en 2 ans, selon les diverses estimations citées par Libération. Pour comprendre comment s'expriment et où s'épanouissent ces conduites ultra dangereuses en 2022, Jeanne Meyer, notre enquêtrice sur Internet, a choisi le prisme des réseaux. C'est le lieu où certains ou certaines se radicalisent, on pourrait dire, mais c'est aussi là qu'ils ou elles peuvent trouver de l'aide.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Alix, j'ai 16 ans, je vais en avoir 17 cette année. Je suis en première à Lille, du coup j'habite à Lille et j'ai toujours habité à Lille depuis que je suis petite. Dans cette maison avec mon frère et mes 4 sœurs et mes 2 parents. J'ai toujours eu une enfance très joyeuse, j'ai toujours eu des parents qui étaient présents, qui cherchaient tout le temps à nous faire plaisir, à ce qu'on soit bien, et même au niveau de mes frères et sœurs, j'ai toujours eu une bonne relation avec eux. Durant mon adolescence, j'ai toujours été, même au collège, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, et du coup, j'ai jamais été seule durant toutes mes années de collège, et une fois arrivée au lycée, là, c'était plus compliqué parce que Il y avait eu le Covid, il y a eu le début du Covid. J'ai pas réussi à créer des liens. On arrive en seconde, on arrive en septembre, on fait des rencontres qui auraient pu, je pense, qui auraient pu créer des amitiés. Mais toutes ces rencontres, elles ont été un peu bloquées par le fait qu'on se retrouve en demi-groupe. Donc, on ne voit plus ces personnes. Je me suis sentie assez seule durant ce second confinement. Parce que même au niveau accompagnement du lycée ou à côté, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, quand on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de rencontres, on se retrouve seul et c'est compliqué. Je me sentais un peu perdue parce que je ne savais plus trop quoi faire et niveau activité, j'avais plus rien. Alors, à l'époque, pendant à la fin de ce deuxième confinement et pendant, j'étais principalement sur Instagram et sur Snapchat et je suivais mes amis en général, des personnalités célèbres, des chanteurs, des actrices, etc. Et j'ai aussi commencé à m'intéresser finalement à des sportifs. Donc j'ai commencé à m'abonner à ces comptes. Et finalement, l'algorithme d'Instagram fait que quand on commence à s'intéresser à un domaine, tous nos fils d'actualité est un peu absorbé par ce domaine. Et du coup, je me retrouvais avec beaucoup de trucs autour du sport. Par exemple, je pouvais suivre des comptes souvent de femmes. On appelle ça des fitness girls. Que j'avais connu sur YouTube, j'étais tombée sur des vidéos et du coup on s'abonne sur Insta parce que souvent c'est la suite logique. Et en fait c'était des vidéos défis avec des titres par exemple comment avoir des abdos pour l'été, perdre le gras des cuisses, perdre le gras du dos, etc. Du coup on clique dessus et donc on voit cette personne faire les exercices et c'est à nous de le reproduire à la maison. Et pour le côté alimentation, c'était plus des ce que je mange en une journée, ou alors le plat healthy que je mange tous les jours, etc. Et du coup, elle parle de plein de termes techniques, de graisse, enfin de bonne graisse, etc., de protéines. Et du coup, on se dit, ah bah c'est quoi ça? Et on est un peu attiré finalement par ça, parce qu'on se dit, bah si elles peuvent le faire, on peut le faire, on commence à s'intéresser. C'était toutes des filles déjà très fines, avec des abdos, qui n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup de graisse, très en forme, très tonique, toujours habillées en brassière et en short. Et c'est là que la remise en question commence, parce que moi, j'étais pas du tout comme ça. J'ai toujours été très large d'épaule, avec pas mal de cuisses, etc. Mais c'était aussi lié au sport que je faisais, la gym, et ça demande quand même beaucoup de muscles à ces parties-là. Et donc ensuite, j'ai commencé à suivre ces programmes d'influenceurs et de sportifs. Et au début, c'était très innocent et j'aimais vraiment ça. J'aimais faire du sport, me dépenser, parce que du coup, je pouvais plus le faire autrement. Et donc, mon but, c'était aussi de perdre un peu, pas forcément beaucoup de kilos, mais juste un peu ce que j'avais l'impression qui était en trop, pour ensuite me sentir bien et continuer. Mais il n'y avait pas vraiment d'objectif de me dire j'ai envie de tout changer chez moi, parce que je savais que j'étais musclée et je l'ai toujours été, mais je voulais quand même changer ces petits défauts qui me paraissaient quand même assez importants. Alors du coup, niveau sport, il y a une période où j'en faisais beaucoup, presque tous les soirs, presque tous les jours, et des fois je m'arrêtais le week-end. Et ça, c'était pendant au moins 4-5 mois. Ça commençait un peu à devenir obsessif, c'est-à-dire que j'étais contente de faire mon sport, mais il y a des fois aussi je me mettais la pression de me dire « Ah, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, il faudrait peut-être que je le fasse ». Personne ne savait que je faisais beaucoup de sport, parce que je l'avais dit à personne. Personne n'a jamais remarqué que j'étais plus musclée ou que je faisais plus de sport. Donc finalement, il y a aussi cette histoire de se dire « Ah bah personne remarque, donc ça veut dire que j'ai pas fait de progrès, etc. » Et du coup, c'était un peu déroutant, mais voilà. Donc est venue la phase où je me suis dit « Ah bah faut peut-être que je remette en question mon alimentation » parce qu'on voit souvent sur les réseaux que le changement physique, c'est aussi lié à l'alimentation. Mais c'était pas énorme au début, c'était vraiment « je me resserre pas parce que j'ai pas faim » ou alors c'était « bah, ce matin je prends pas de petit déjeuner parce que j'en ressens pas l'envie » et ça a commencé comme ça, mais sauf qu'au final, au fur et à mesure, je réduisais de plus en plus mes portions. J'ai commencé à penser pas mal à la nourriture. J'étais vraiment dans le contrôle et j'arrivais plus à me détacher de ce que je voyais sur la balance et je me disais « il faut que je continue mes efforts parce que finalement ça fonctionne ». J'ai perdu 15 kilos en 4 mois presque. 4 mois, et j'arrivais pas à sortir de ce cycle. Je faisais que perdre, mais parce que je mangeais pas assez, mais j'arrivais pas parce que mon estomac s'était réduit, et du coup même je me disais « ah non, mais de toute façon c'est assez ce que je mange bien et tout, je mange équilibré, je mange du tout, donc ça va ». Personne n'a remarqué que j'avais perdu 15 kilos, parce que déjà je voyais presque plus personne, j'avais plus d'activité, et puis j'avais pas beaucoup d'amis. Et je m'habillais avec des vêtements larges, donc ça se voyait pas forcément. Mais je perdais encore plus et j'avais peur finalement de tomber dans un engrenage que je ne contrôlais pas parce que je ressentais déjà que des fois j'avais du mal à manger ou à me dire ça c'est bon, etc. Et du coup j'en ai un peu parlé à mes parents et ça c'était environ en février 2021. Je leur ai dit « Ah voilà, je me sens pas très bien, j'ai peur de tomber dans quelque chose que je ne maîtrise pas ». Et c'est aussi à cette période que mes parents ils ont commencé à remarquer que ça allait pas parce que finalement j'étais plus heureuse, je faisais plus de blagues, j'avais du mal à me réjouir et j'étais triste finalement. J'arrivais pas à me réjouir parce que je pensais à trop de choses en même temps. J'arrivais plus à faire grand chose, j'avais même plus la force de faire du sport donc j'ai arrêté le sport. J'allais au lycée mais j'étais fatiguée quand je montais les escaliers et c'est une période aussi où tout le monde a un peu commencé à remarquer que j'avais perdu du poids parce que j'avais quand même perdu pas 15 kilos. Et là, on a commencé à me dire « Ah, t'as perdu du poids, ah, quand même, enfin, t'as fondu, etc. » Donc je me disais « Ah, bah là, ça se voit, finalement, c'est bien ce que je fais, je peux continuer encore. » Et du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé de mai à juillet. Alors physiquement, du coup, j'ai perdu mes règles. J'avais plus de règles, que j'ai toujours pas retrouvées d'ailleurs. Je perdais tous mes cheveux, même encore... maintenant, ça va beaucoup mieux, mais à l'époque, à chaque fois que je sortais de la douche, je perdais vraiment au moins une touffe de cheveux à chaque fois. Aussi, j'avais beaucoup plus de poils sur moi, parce que du coup, mon corps, il essayait de se réchauffer. Et j'arrivais pas à rester concentrée plus de 20 minutes parce que je pensais à trop de choses en même temps et j'avais pas assez d'énergie. Du coup, plusieurs fois, je suis allée chez mon médecin pour faire des rendez-vous. C'était mon médecin généraliste, donc juste pour un peu voir comment ça allait. Et à chaque fois qu'elle me prenait ma tension, J'avais 8 de tension, 8-9, donc c'est pas du tout assez pour quelqu'un. Et donc elle m'a clairement diagnostiqué, elle m'a dit que j'étais anorexique. Et du coup c'était un peu un choc, mais en même temps je le savais. Et du coup elle m'a renvoyée vers des confrères à elle, qui sont donc à l'hôpital Fontan 2 à Lille, où elle m'a dit qu'il y avait une unité spéciale qui aidait les gens. Et il faut savoir que c'est quelque chose où il y a beaucoup de listes d'attente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, parce qu'avec les deux confinements ça a explosé les cas. Et donc voilà, ils m'ont fait les bilans, etc. Et ils m'ont dit, bon, bah, on se retrouve à la fin de l'été, parce qu'il n'y avait pas de place avant. Donc ça a été très dur aussi pendant les vacances pour toute ma famille et pour moi, parce que j'ai perdu encore du poids. J'avais encore perdu 4-5 kilos. Et du coup, je suis arrivée à la rentrée en août. Je suis repartie dans donc, ce centre pour faire mon deuxième rendez-vous. Et là, ils se sont rendus compte que j'avais perdu beaucoup de poids. Et finalement, ça a été très vite là. J'ai eu un rendez-vous le jour même avec mes parents et ils ont dit à mes parents que si je changeais pas dans une semaine, bah, je serais hospitalisée. Donc c'était quand même assez grave. Et c'est là que j'ai vraiment une prise de conscience de me dire mais c'est pas possible. En fait, là, je vais jusqu'à... Enfin, en fait, c'est un truc où on peut en mourir et c'est à ce moment-là qu'on se dit mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, en fait. Le jour même, j'ai décidé que j'allais commencer à guérir, et depuis bah, j'ai fait que essayer de guérir, c'est-à-dire que je devais aller à l'hôpital une fois par semaine pendant une matinée où du coup j'avais rendez-vous avec des spécialistes et j'avais aussi un repas là-bas pour m'habituer à remanger normalement. Mais il y a aussi cet aspect de comparaison parce que on guérit pas forcément à la même vitesse tous, et moi par exemple je guérissais beaucoup plus vite que tous les autres, et du coup on se sent un peu illégitime de se dire bah finalement moi j'étais moins malade, bah moi je me suis jamais fait vomir par exemple, j'ai jamais raté de repas, donc il y a vraiment cette idée de ah bah moi je suis moins malade, c'est moins grave, je mérite moins d'être ici parce que j'ai jamais eu ces symptômes, alors qu'en vrai à partir du moment où on n'arrive pas à avoir un rapport correct avec l'alimentation, il y a un problème. Et en fait, j'étais suivie du coup là-bas et ça a duré pendant donc de août à décembre 2021. On n'a pas envie de lâcher la maladie parce que c'est comme ça qu'on existe. On a perdu toute personnalité, on n'est plus heureux, on a fait plus de blagues ou juste on n'a plus de personnalité parce qu'on a tout perdu à cause de la maladie. C'est comme si c'était un trait de personnalité d'être anorexique. Et c'est pour ça que moi, personnellement, pendant longtemps, ça a été compliqué de guérir parce que je me suis dit, mais sans la maladie, je ne suis plus rien, donc on n'a pas envie de guérir. Ce qui m'a aidée, c'est, je dirais, ma famille, parce que déjà, j'avais envie de guérir pour eux. Enfin, il faut quand même... Enfin, il faut avoir envie de guérir pour soi, parce que sinon, on ne guérira pas. Mais j'avais aussi envie de guérir pour eux. Et après, en fait, c'est aussi beaucoup Internet qui m'a aidée pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, je suis tombée à cette période, je suis tombée sur beaucoup de témoignages de gens qui nous disaient comment ils en étaient sortis. Enfin, et ensuite, il y a l'époque aussi sur TikTok où il y avait beaucoup de gens qui étaient pareils dans ce processus de guérison. Du coup, on s'attache à eux et on se fixe un peu des défis tous ensemble de se dire bah voilà, on veut tous guérir. Et du coup, c'est vraiment agréable de ne pas se sentir seul parce qu'on se rend compte que bon, on n'est pas fou. Voilà, on a besoin d'aide, mais on a l'aide possible. Et du coup, c'est pour ça que là, les réseaux, c'était quand même très utile. Aujourd'hui, je dirais que je suis presque guérie, c'est-à-dire que physiquement, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, je m'alimente normalement, j'ai moins ces pensées un peu obsédantes, même si ça m'arrive toujours de les avoir, parce que c'est pas facile de s'en détacher complètement. J'ai retrouvé un peu un état d'esprit heureux, j'ai à nouveau des amis, une vie sociale, je sors, je reprends mes activités, mais sans plus, et du coup, finalement, je pense que mentalement, ça va beaucoup mieux. Et encore aujourd'hui, ça me rend triste de voir à quel point je me suis fait du mal, on va dire, pour exister, alors qu'au final, je méritais pas ça. Et personne mérite ça.
Je m'appelle Christina, j'ai 21 ans, je viens de Metz, dans le Grand Est. J'ai grandi avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur. Je me rappelle pas si bien de mon enfance que ça. Je me rappelle en fait de certains passages pas forcément joyeux. J'étais une petite fille très timide, très très réservée. J'osais vraiment pas prendre de la place, je me faisais le plus petit possible, un peu comme un petit fantôme. Avec le recul, je me rends compte que j'ai commencé à développer des troubles alimentaires et des symptômes de troubles alimentaires quand j'avais environ 7-8 ans. J'ai une mère qui a elle-même des troubles alimentaires, qui m'a beaucoup, un peu comme un miroir, mis tous ses, comment dire, tous ses propres complexes, en fait, elle me les a projetés sur moi. Donc le fait que j'ai, selon elle, j'étais trop grosse, que j'étais moche, en fait, tout ça, c'était des mots qu'elle pensait pour elle-même, mais qu'elle me disait à moi, parce qu'on se ressemblait beaucoup, surtout quand j'étais petite. J'étais très typée espagnole, petite, et au contraire de mon frère et ma sœur qui étaient blondinés. On me comparait tout le temps à la maison à mon frère et ma sœur qui étaient très, très, très minces. Je me rappelle que vraiment, quand je voyais des filles plus fines dans ma classe, je me disais qu'elles, elles étaient propres, qu'elles étaient jolies, que machin, et que moi, j'étais forcément sale. Je me sentais vraiment comme un brouillon ou une personne abîmée et que pour enlever ce truc-là, et ben, fallait enlever le plus de graisse possible dans mon corps, que ça allait me purifier, en fait, et qu'il fallait que je prenne le moins de place possible, quoi. Ah, du coup, j'ai grandi avec mes pensées d'anorexique, sans vraiment avoir conscience que c'était de l'anorexie à l'époque. Puis j'entre en sixième, et là, je découvre sur Internet, chez ma mamie, sur le PC de ma mamie, ce que c'est en fait qu'être pro-anorexique. Donc je ne savais pas ce que c'était du tout. Je suis tombée sur des blogs, notamment sur Skyblog, donc plateforme très connue où il y avait plein de blogs sur plein de thématiques différentes. Un blog typique des années 2010, pro-anorexique à l'époque, clairement c'était un peu type journal intime où t'avais des photos, des filles super belles, super minces, jolies, et entre ces photos là, ben, la personne qui tient le blog qui va raconter en fait sa vie en tant qu'anorexique, le compte du jour ou à quel poids elle est, quel est son poids goal, combien de calories elle a mangé aujourd'hui, combien de calories elle a vomi aujourd'hui, combien de calories elle a dépensé aujourd'hui. Puis ensuite, elle va raconter sa journée. Voilà, je suis allée à l'école, j'ai pas mangé. Sur Internet, c'était pas vraiment censuré les thématiques d'anorexie, de pro-anorexie et toutes les dérives un petit presque sectaires en fait des troubles mentaux. Et je suis tombée dessus, je me suis demandé ce que c'était, et là je tombe sur les 10 commandements d'Anna. Donc ça c'est quelque chose qui était très connu. Anna en fait c'était la personnification de l'anorexie, c'est comme ça qu'elle s'appelait, c'était une dame supposée très très mince, très maigre, qui un peu comme une déesse, ou ouais, clairement une déesse dans une secte, te disait qu'il fallait pas manger. Et il y avait vraiment les 10 commandements d'Anna, avec différentes règles, tu ne mangeras point à partir de telle heure, et tout ça en fait je l'ai pris comme si c'était une Bible, quoi. Je respectais chaque commandement à la perfection. Et j'avais en plus ce truc de bon petit soldat, quoi, où il fallait que je respecte les règles super bien. Et ça, c'était à l'école, c'était dans la maison. J'étais une enfant très studieuse, très sage. Et donc forcément, par extension, je me suis dit, il faut que tout soit parfait, donc je vais tout respecter à la lettre. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans, ouais. Pendant tout le collège, j'ai pas été complètement anorexique, c'est venu par période en fait. Il y a des périodes où je mangeais normalement, où ça allait bien, puis d'autres périodes où je m'affamais complètement, ou encore d'autres où j'essayais de me faire vomir, et dans ce cas-là, je cherchais sur internet les techniques pour vomir le plus facilement possible. Tout ça, j'essayais d'étouffer, j'en parlais à personne. Je me confiais à personne, même pas à mes amis proches, même pas à ma petite sœur de qui je suis très proche. Personne s'en est vraiment rendu compte. En tout cas, mes parents n'ont pas vraiment réalisé que j'avais des problèmes avec la nourriture. À part ma grand-mère paternelle, elle avait remarqué, en fait, depuis que j'étais toute petite, qu'en fait, il y avait sûrement des choses qui se passaient à la maison qui n'allaient pas du tout. Elle avait remarqué déjà les signes d'une personne traumatisée en moi quand j'étais petite, mais elle en avait parlé à personne parce qu'elle ne savait pas vraiment comment l'aborder. J'étais tellement mal, tellement complexée que j'avais l'impression que ça m'étouffait. C'était même plus que ça m'étouffait, c'était ça me noyait complètement. Et ça s'est envenimé en première et terminale où là j'ai vraiment eu des périodes très longues où j'ai pas mangé. Et là j'ai perdu énormément de poids. plus d'une dizaine de kilos. Sachant que de base, j'étais pas en surpoids, donc j'avais vraiment perdu beaucoup de poids et ça se remarquait physiquement. Mais plutôt que ça inquiète les gens m'ont félicité en fait. Et donc arrive la fac à la rentrée en septembre et j'ai tenu une semaine où, qui a été très compliquée parce que j'étais perdue, je sentais que j'étais pas du tout à ma place alors que pourtant j'étais dans une filière qui me plaisait beaucoup en langue. Mais je sentais en fait que si je continuais comme ça, j'allais juste mourir en fait, j'allais juste finir par me suicider. Donc j'ai décidé pour la première fois de ma vie d'en parler à mes parents et de leur dire là vraiment je vais devoir tout vous raconter parce que ça va plus du tout. C'est pas super bien passé, surtout auprès de ma mère qui en gros m'a dit que j'allais finir comme elle, caissière, que j'allais être l'échec de la famille, qu'elle allait pas pouvoir continuer à me payer un loyer, enfin le fait d'habiter chez eux si je foutais rien, si je ramenais rien. Donc ça s'est mal passé, mais je suis restée à la maison pendant un an suite à ça. Et mon état a vraiment empiré, sachant qu'à la maison, ça se passait pas bien du tout non plus. Il y avait beaucoup de violences physiques, de violences verbales. On a eu beaucoup de problèmes financiers aussi, donc beaucoup d'angoisse par rapport à ça, de culpabilité aussi, de pas aller à la fac, de pas pouvoir aider et contribuer à ma façon. Donc en fait, tous les aspects de ma vie se sont envenimés. À cette période-là, l'anorexie c'est vraiment devenu un refuge parce qu'au final, j'avais l'impression d'avoir une activité dans la journée, quoi. J'avais rien d'autre, j'avais pas de fac, j'avais pas de cours, j'étais toute seule à la maison, qu'est-ce que je pouvais faire? En fait, tout passait par le contrôle de mon corps et des calories. Je ne pensais qu'à ça. Je me levais le matin, je pensais chiffres, je mangeais chiffres, je contrôlais tout. Du coup, forcément, l'espèce d'horloge interne qu'on a pour savoir quand est-ce qu'il faut manger, tout ça, je ne l'avais plus. Par contre, c'est une de mes tantes qui a su que j'arrêtais la fac, qui m'a dit « Mais attends, Christina, on peut pas te laisser comme ça. » Donc, elle m'a emmenée au médecin, qui lui m'a dirigée vers une psychiatre, du coup, qui m'a suivie pendant tous ces mois-là. Mais la première fois où je lui ai parlé du fait que j'arrivais pas à manger, elle m'a dit « Bah, faut arrêter les caprices comme ça. Il faut juste manger. Et puis, t'avais qu'à retourner à l'école aussi. » Donc c'était très compliqué parce que je savais qu'elle ne me faisait clairement pas de bien. Et c'est vrai que le piège, c'était que c'était la seule personne que je voyais, en fait. C'était mon semblant de vie sociale à moi, donc je voulais pas quitter ce truc-là parce que je me disais, si je la vois plus, ça y est, c'est fini. Je vois plus personne. C'est vraiment à la période d'hiver 2018-2019 où du coup j'étais toute seule et je parlais à personne à part à ma psy que je suis retombée à nouveau dans tous les délires de ProAna sur internet. Mais en 2018-2019, il y avait quand même beaucoup plus de censure de la part des plateformes de réseaux sociaux. Notamment, certains mots sont bloqués quand on les écrit dans les barres de recherche. Il y a des messages d'aide, de soutien, des numéros ou des centres d'aide aussi à appeler quand on a des troubles mentaux ou quand on est suicidaire. Donc je trouve ça plutôt pas mal, mais au final, on arrive quand même à contourner les censures internet quand on a envie de vraiment les trouver, on arrive à les trouver. Les mots-clés les plus connus dans la communauté ProAna, c'était surtout, je dirais, le Thinspo, donc qui veut dire en gros l'inspiration maigre, inspiration maigreur en français. Donc simplement, quand on cliquait sur ce hashtag-là, on tombait sur des photos de personnes très très minces qui, en gros, ont pour but de te motiver à perdre du poids. Il y avait le Minspo, donc l'inspiration méchante, où en fait, c'était des messages d'insultes, type « tu es grosse, t'es une grosse vache, va perdre du poids » pour en fait se motiver à perdre du poids. Et des gens fonctionnent grâce au Minspo. Et moi, c'était quelque chose que j'utilisais à l'époque pour me motiver à perdre du poids. Paradoxalement, ça m'apportait aussi du soutien parce que je pouvais communiquer avec des personnes qui vivaient ce que je vivais aussi. Mais c'était étouffant parce que ma vie ne se résumait plus qu'à ce trouble-là. Du coup, à cette période-là, je suis passée sur un réseau social qui s'appelle Reddit, qui est un réseau social où on peut parler avec plein de personnes, partager des photos, des vidéos. Au début, c'était surtout une plateforme de soutien pour partager des conseils, de l'aide, avoir des numéros d'aide, etc. Et en fait, c'est un peu envenimé. Et sous certaines photos, certaines publications, il y avait dans les commentaires des personnes qui mettaient des avis de recherche. Ah, bah, je recherche une Anna Buddy. Donc, Anna Buddy, c'est une amie anorexique, une pote anorexique. Et donc, à quoi ça sert une Anna Buddy? Bah, ça sert à se motiver à perdre du poids. Donc, en gros, c'est une personne avec qui tu vas échanger ton numéro, tes réseaux sociaux. Moi, c'était Instagram. Et tu vas simplement parler avec cette personne-là tous les jours pour raconter bah, ce que tu as mangé, combien de calories tu as consommé, si tu as fait du sport ou pas, à quel poids tu es descendu aujourd'hui, etc., etc. Donc, moi, au final, sous une de ces publications-là sur ce Reddit, j'ai contacté une personne qui disait rechercher une Anna Buddy. Et cette personne-là, du coup, c'était une fille américaine qui vivait en Louisiane et qui, comme moi, vivait ce que je vivais. Donc, un trouble alimentaire. Elle n'avait pas du tout envie de s'en sortir. Et ça m'a mis très mal à l'aise parce que je me suis dit, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas encourager quelqu'un à se tuer. C'est clairement ça. On est, au fur et à mesure du temps, devenus Buddy tout court. On est devenus amis parce que on a commencé à se confier sur ce qu'on vivait. Parce qu'au final, l'anorexie, c'est pas juste perdre du poids. Il y a forcément une racine derrière. Ma racine à moi, c'était les traumatismes que j'avais vécu depuis l'enfance et tout ce qui s'en était suivi. Et c'était la même chose de son côté. En fait, à partir du moment où on a commencé à se confier sur nos vies, on s'est dit, ah ouais, en fait, faut vraiment qu'on ait de l'aide. Genre là, on mérite vraiment de l'aide. Et on a fini par totalement arrêté ce côté Anna Buddy où il fallait s'envoyer des messages pour se motiver à perdre du poids. Là, on ne faisait plus que s'envoyer des messages pour se motiver à être heureux et à guérir. J'ai commencé à faire mon TikTok en 2020. Donc, je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2020 parce que j'avais des amis qui m'avaient demandé de faire un réseau social où je pourrais m'exprimer sur ce que je vivais, parce qu'ils pensaient que je m'exprimais assez bien en fait sur ce que je vivais. Par la suite, ma communauté a très vite grandi et m'a demandé de faire une chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit. Et c'est avec cette première grande étape-là pour moi qui a fait que j'ai vraiment commencé à aller vraiment bien et à être vraiment heureuse. Mais qu'en même temps, j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup de traumatismes passés et j'avais peur de retomber sur une psy qui allait être au final comme la dernière. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et au final, c'est ma tante qui m'avait à l'époque dirigée vers mon médecin pour aller bien, qui m'a à nouveau dirigée vers une nouvelle psy. J'ai commencé à en parler et à vraiment guérir avec elle. Le fait que je fasse des vidéos sur internet, elle l'a vu comme quelque chose de super sain et de super positif. Déjà parce qu'elle m'a dit que bah, si toi, ça te fait du bien et que toi, tu le vis bien, c'est que c'est une bonne chose pour toi. Aujourd'hui, avec mes troubles alimentaires, ils sont pas du tout guéris entièrement. Mais je vais mine de rien beaucoup mieux. Donc même s'il y a encore du chemin à faire, ça va beaucoup mieux. Backing it up a bit, counting my hours and knocking on wood. Avoiding my opposites, chewing on chocolate. Had a bit limited time, but I should be good for a minute. Don't want to admit it, I'm running on seconds. I'm rigid, I'm screwed, don't know what to do. I'm thinking of you, I'm drinking the bottles and bottles. C'était Anorexie 2.0, un reportage de Jeanne Meyer réalisé par Anne de Pelchin, mixé par Jean-Louis Deloncle. Merci à Alix et à Christina, ainsi qu'à Jeanne Copé et Justine Calais, notre stagiaire.